Après les 120 journées de Sodome, les 11 000 verges, voici venir les 6 900 interdits d'Abeldan à Zopsédé, de Feu Occulte à Sucette Suédoise. C'est la longue cohorte des livres et journaux censurés qui sera cet après-midi à l'affiche de Mauvais Genre, et ce grâce au monumental dictionnaire de notre invité Bernard Joubert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc cet après-midi dans Mauvais Genre, et je salue sans plus tarder Bernard Joubert. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Joubert, la dernière fois que vous êtes venu, c'était il y a bien longtemps, en 2001, pour parler déjà de censure. C'était
pour mon anthologie érotique de la censure.
Voilà, où on découvrait que même des livres du CNRS sur les graffitis cochons étaient censurés parmi d'autres textes plus littéraires.
Voilà, c'était un livre qui était consacré uniquement à la littérature érotique censurée.
Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour un livre dont on parle et dont on a parlé beaucoup, mais jamais assez. Il y a une publicité régulière dans Livre Hebdo. C'est le dictionnaire des livres et journaux interdits. Monumentale somme de près de 1210 pages, ou quasiment, avec donc, je le répète, 6900 titres de tous les ouvrages interdits par la loi de 49 depuis qu'elle a été votée. Donc c'est quasiment une somme définitive, comme il y a le Gaffio, le Bailly, il y a le Joubert, en matière de censure éditoriale et de censure littéraire et autres. Vous êtes évidemment flanqué aujourd'hui de deux personnages patibulaires. J'ai nommé Christophe Beer.
Bonjour.
Bonjour. Et puis Jean-Pierre Bouixou.
Oui, bonjour.
Voilà. Bien. Bernard Joubert, j'aimerais que, avant d'ouvrir cet ouvrage énorme et comme ça de le cartographier, on parle de vous tout simplement et de savoir ce qui vous a mené depuis très longtemps, puisque vous étiez encore adolescent ou presque, à combattre, d'abord à étudier, à repérer, à collectionner, à vous faire véritablement le spécialiste de la censure. Quelle est un petit peu la scène première qui vous a amené à tout cela ?
Alors la découverte, oui, parce qu'avant même de la combattre, il a fallu que je sache que ça existe.
Et une scène primitive.
Voilà, et qui est un vrai traumatisme chez moi.
Le traumatisme initial de Bernard
Joubert. Le jour où j'ai découvert
la censure
existait, c'est parce que je lisais des bandes dessinées de super-héros. Je suis né en 1961, pour me situer. Je lisais adolescent des bandes dessinées de super-héros, c'est-à-dire Spider-Man, en français L'Homme Araignée, Les Quatre Fantastiques, Les Fantastiques Forts, qui paraissaient principalement dans la revue Strange, un mensuel des éditions Lug, en France. Et j'aimais beaucoup ça, entre autres, parce que je lisais à peu près tout ce qui paraissait en bande dessinée, pas que les super-héros. Et puis, je me suis procuré des éditions originales américaines, des comic books.
Vous doutiez qu'il y avait Anguille Souroche pour être allé voir?
Pas du tout, non, j'ai trouvé ça un jour chez un bouquiniste grenoblois, j'habitais Grenoble, ça s'appelait La Gerbe Noire, c'est quelqu'un qui était un peu sous l'influence de Jean Boulet.
Ouais, on salue, tiens, on va lui dédier notre émission à Jean Boulet. Et à Maurice Garçon. Allez.
Et donc là, je devais avoir 12-13 ans, quoi, où je trouve mes trois premiers comic books chez ce bouquiniste, et là, je me rends compte, en les comparant avec les éditions françaises, que les éditions françaises étaient retouchées, que l'on supprimait les onomatopées, les traits de vitesse, les cornes sur les monstres, on rabotait les dents trop pointues, etc. Donc là, je mène ma petite enquête à mon niveau. J'écris à l'éditeur, aux éditions Lug, aux éditions Arédit, aux éditions Sage Édition, qui me répondent, il y a une commission, il y a une loi, on est obligé de le faire. Je me procure les procès-verbaux de cette commission.
Alors là, ça devient. Non, parce que ça va loin quand même. On peut s'intéresser à un phénomène sans aller jusqu'à. Sans sonder les profondeurs de l'appareil et aller à lui écrire, entrer en contact. Là, vous devenez véritablement une sorte de.
Mais ça m'a profondément énervé.
Oui, mais c'est plus que de l'énervement. Ça a touché chez vous quelque chose qui. Ouais. Je me suis au-delà senti, même de la conscience morale.
Je me suis senti insulté.
Voilà.
En tant qu'adolescent. On considérait que moi, adolescent français, j'étais plus bête que les adolescents américains ou les adolescents italiens, parce que ces bandes dessinées paraissaient en Italie, je connaissais les publications italiennes, voilà, elles n'étaient pas censurées. Nous, en France, on n'y avait pas droit, quoi. On était trop bêtes.
Et ça vous a totalement...
Déjà, ça m'a amené à mes premiers écrits sur le sujet.
Alors justement, le premier écrit, on peut en parler, c'est vous prenez acte de cette situation de publication épurée en France de super-héros.
Voilà, ça s'appelait Before Après, c'était une plaquette, j'avais 17 ans quand c'est paru, mais je l'avais coécrite avec un camarade qui était encore plus jeune que moi, donc on était vraiment deux ados précoces, et on s'en prenait, bon, on avait lu à l'époque Maurice Garçon, son plaidoyer contre la censure, nos parents étaient des lecteurs d'Arakiri et de Charlie Hebdo, donc on avait lu Kavanagh, et on savait déjà ce qu'était la loi de 1949. Et notre plaquette consistait principalement à montrer les versions américaines et françaises, à les comparer.
Et donc depuis, vous êtes allé, vous avez accumulé la documentation, engagé des recherches, et ça aboutit à cet extraordinaire volume.
Ouais, alors entre-temps, alors
j'ai pas fait que ça, bien évidemment.
Voilà, mon premier livre important, ça a été Images interdites avec Yves Frémion en 89, je crois, ou 88-89, qui lui était consacré à la censure des images en général, alors les films, les affiches, la télé, les vieilles gravures, et puis la bande dessinée, bien sûr, parce qu'avec Frémion, on vient de la bande dessinée. Moi, je voulais être auteur de bande dessinée. Pendant toutes les années 80, j'ai galéré à essayer d'être auteur de bande dessinée. Je suis devenu plutôt journaliste parce que les journaux...
Vous êtes devenu éditeur, l'édition Dynamite, dont on va parler.
Maintenant, je m'occupe de collections de bande dessinée. Je compense en publiant les autres.
Alors, Bernard Joubert, donc cet ouvrage, les 6900 entrées, eh bien chaque ou quasiment toutes les couvertures sont produites, puisque les couvertures jouent leur rôle dans l'interdiction, j'imagine. Et puis les ouvrages, vous les avez tous retrouvés? Comment vous avez fait pour arriver à collecter cet ensemble?
Alors, les couvertures, puisque justement, elles sont reproduites.
Les livres sont résumés, les couvertures en grande partie sont produites. Ouais. Vous avez également des mentions sur les pseudonymes. On sait tout des livres, donc vous êtes allé à la rencontre de chaque ouvrage condamné.
Le processus a été celui-là. D'abord, il a fallu dresser la liste parce qu'il n'existait pas de liste de ce qui était interdit en France. C'est bizarre, hein, on pourrait penser que le ministère de l'Intérieur est à même de la fournir. Non, ça n'existait pas. Ça apparaît au journal officiel quand un arrêté a été signé. Et donc, il a fallu que je consulte les journaux officiels depuis 1949. En annexe aussi, je traite d'une autre loi, l'article 14 de la loi de 1881. Mmh. Donc, j'ai aussi listé les 2000 titres qui avaient été interdits avec cette loi. Et cette liste établie, bon, il a fallu la saisir, il a fallu la vérifier, parce qu'il fallait vraiment que tout soit juste, les orthographes, les dates, et pas en avoir oublié, ce qui permet d'affirmer que là, c'est vraiment un dictionnaire exhaustif. C'est-à-dire, si vous pensez qu'un titre a été interdit, mais qu'il n'est pas dans mon dictionnaire, ce qui n'a pas été interdit, il y a eu un autre problème, il y a eu un procès.
Vous êtes allé à la source légale, donc il n'y a pas d'ambiguïté.
Voilà. Alors là, c'est le chapeau de mes notices.
Ouais.
D'ailleurs, il y a le titre, il y a le nom de l'auteur quand il a été mentionné au journal officiel, le nom de l'éditeur, son adresse, et puis la date à laquelle l'arrêté a été signé, la date à laquelle c'est paru au journal officiel, c'est-à-dire c'est le moment où l'interdiction est officialisée. Ça commence à ce moment-là. Et puis le niveau d'interdiction, parce que
voilà,
selon les époques, il y a eu des interdictions commineures, d'expositions, de publicité, de toute publicité même.
Logiquement, chaque reproduction...
Jean-Pierre Bouixou.
Logiquement, chaque reproduction de couverture est donc une infraction.
Non, parce que toutes n'ont pas été interdites de publicité.
Toutes celles qui ont été interdites de publicité.
Oui, mais alors, dans les années 60, on aurait pu effectivement condamner ce livre en disant qu'il faisait de la publicité.
Voilà,
aujourd'hui, l'interdiction de publicité, c'est précisé, c'est sous forme de catalogue ou de circulaire ou d'audiovisuel.
Ceci est donc de l'information et pas de la publicité.
Ouais. Bah oui, c'est de l'information, puisque cet ouvrage est publié par les très dignes éditions du Cercle de la librairie.
Donc, oui, c'est un façon, éditeur de référence pour les professionnels.
Voilà,
de
et qui travaille avec le syndicat de l'édition ou avec,
Au départ, ça a été créé au 19e siècle et c'était des éditeurs qui avaient besoin d'avoir un fonds commun de livres de référence. Ça a été créé en 1830.
Donc c'est un ouvrage technique aujourd'hui.
Oui, au moment où je l'ai fait, c'était plus la loi était encore en activité, quoi. J'ai commencé en 1994 et il y avait encore un vrai danger de se faire interdire quand on faisait une revue, un livre. D'où l'idée d'ailleurs de faire ça sous la forme d'un dictionnaire, c'est-à-dire c'était vraiment les livres qui étaient encore interdits. Aujourd'hui, ça n'a d'intérêt qu'historique, si vous êtes collectionneur, si vous intéressez à l'histoire de la censure ou à l'histoire de l'érotisme ou du roman policier ou de la bande dessinée. Mais un libraire ne va plus consulter ce livre en se disant « voilà les livres qu'il ne faut pas que j'ai dans ma librairie ».
Il n'empêche que théoriquement, ces livres sont toujours interdits pour la plupart.
Ils le sont toujours, oui. Ouais.
Non, le pire, c'est que les libraires vont s'en servir pour faire monter les prix.
Ah voilà, ça y est, le collectionneur revient. Ça va devenir maintenant un peu le trésor de la bande dessinée. On va avoir le trésor du livre censuré.
Interdit, donc on double le tarif, c'est ça.
Absolument. Alors effectivement, on va partir un petit peu, Bernard Joubert, de cette loi de 49 et surtout du terme de démoralisation. Parce qu'à l'origine, c'est donc une décision donc qui vise à lutter contre la démoralisation de la jeunesse et qui touche essentiellement la bande dessinée.
Voilà, donc bon, c'est un projet de loi. Si on trouve, on cherche les racines de la loi, c'est déjà dans les années 30, l'abbé Bethléem qui faisait la revue des lectures, les romans à lire, romans à proscrire, hein, qui s'en prenait aux illustrés, les mauvais illustrés étrangers et juifs, des publications Offenstadt qui faisaient les pieds nickelés, les patents.
Cosmopolite et Interlope.
Voilà. Et puis après, il y a eu l'occupation. Il y a eu un projet de loi, là, voilà, qui était fait
vous
par
le cartel. Vous mentionnez sous
Vichy. Qui ne s'est pas concrétisé. Mais les mêmes, on retrouve les mêmes personnes, notamment Daniel Parker, qui est poursuivi en justice
de Boris Vian. C'est une loi néo-pétainiste.
Oui. Il y avait déjà la commission, tout était prévu. Hein. Mais alors, après-guerre, ça revient en disant il y a une augmentation de la criminalité juvénile.
Donc les blousons noirs.
Quels sont, alors à l'époque, c'était plutôt les azous.
Les futurs blousons noirs.
Quelles en sont les causes? Les mauvaises lectures. Et quelles mauvaises lectures? Les bandes dessinées, les illustrés. En premier lieu, Tarzan, qui était le personnage le plus décrié. Donc, vous lisiez Tarzan enfant et ça faisait de vous un délinquant. Hein. C'était vraiment un discours qui était ressassé. La bande dessinée n'avait aucune légitimité culturelle, donc personne ne s'opposait à ça. Donc une loi...
On peut dire que la bande dessinée, je vous interromps Bernard Joubert, a peut-être succédé au cinéma, parce que il se trouve que moi aussi je collectionne et j'ai récupéré la quasi-totalité de la collection de la revue de l'abbé Bethléem. Et j'ai évidemment feuilleté, et c'était le cinéma à l'époque qui obsédait beaucoup les gens. Et on voit un chef de délinquant déclare « j'allais souvent au cinéma ». Donc en 49, c'est plutôt un chef de délinquant déclare « je lis beaucoup de BD ».
Voilà, et aujourd'hui...
L'abbé Bethléem ne parlait pas de BD.
Je fais des jeux vidéo aujourd'hui. Hein. Ça succède. Il y a eu un peu les mangas aussi, oui, il y a quelques années. Voilà. Bon, il faut qu'il y ait un bouc émissaire. À l'époque, donc, c'était le livre, la chose imprimée, la bande dessinée en premier lieu. Et ils ont fait passer une loi qui aurait dû, en fait, ne concerner que les publications pour la jeunesse. Et puis, par amendement, il y a eu un 14e article qui a été introduit et qui a étendu la loi à toutes les publications, puisque toutes pouvaient être perçues, lues par des mineurs. Et ce dont je parle dans mon dictionnaire, ces interdictions, ce sont des publications qui sont tombées sous le coup de cet article 14. Hein. Le ministre de l'Intérieur pouvait interdire des publications pour adultes, qui étaient des publications pour adultes, en raison de protection de la jeunesse.
Donc on imaginait que la jeunesse pouvait aller rôder dans les librairies et tomber sur
ces... Et lire, c'était tout à fait vrai. D'ailleurs, jeunesse des années 50 lisait Paris Hollywood qui a été...
Bien sûr, en secret. Mais là, il y a un abus de pouvoir évident, puisqu'on est parti d'un secteur quand même assez cantonné, la démoralisation, la bande dessinée. Et puis là, cet amendement, comme toujours, nous est un petit peu fourgué de manière clandestine. Et là, c'est toutes les publications qui sont concernées.
Ouais. Les lois de censure, ça s'est toujours passé comme ça. Je m'intéresse à toutes ces lois, même les récentes. Ça arrive toujours, on s'y attend pas. C'est présenté à la Chambre sous des moyens détournés, on vous fait croire que ça va s'appliquer à ça.
On attend qu'il y ait personne pour voter.
Puis,
voilà.
Alors, il y a eu de très longs débats, hein, concernant la loi de 49, contrairement à des lois récentes comme l'article 227-24 sur les messages pornographiques ou autres, qui eux sont passés sans que personne ne les remarque. La loi de 49, ça a été très long. Les communistes voulaient une loi, ils n'en ont pas eu, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, mais il y avait le MRP, les catholiques qui ont fait passer leur projet. L'article 14 a été assez peu discuté. Il doit y avoir un député qui, à un moment, dit il faudrait quand même pas que ça soit une loi de censure. Et on lui répond, mais non, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est très, très, très peu discuté.
Alors, cette loi de 49, donc, elle fonctionne avec une commission qui, pour vous, est un... Alors, vous donnez le nom de tous les participants. Vous décrivez de manière très minutieuse sa composition. Alors, quelle est un peu, d'ailleurs, l'évolution, puisqu'on est quand même dans la longue durée avec vous, Bernard Joubert. Quelle est un petit peu l'évolution de la composition de cette commission?
Elle n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Elle n'a pas changé.
Bien sûr...
On fêtera les 60 ans en 2009. On ira les voir.
Il y a actuellement un membre de la commission, René Finkelstein, qui,
ouais, fait peur, là.
Qui était déjà en 1949... ça va faire donc 6 décennies qu'il y siège.
Il est peut-être mort ?
Non, il est toujours vivant. Toujours vivant, sauf qu'à l'époque, il représentait les cœurs vaillants et
vaillantes. Oui, c'est ça qui est important.
Et maintenant, il représente les éditeurs pour adultes.
On représente. C'est-à-dire que les personnes qui siègent représentent des instances différentes.
Oui.
Alors, lesquelles ?
Alors, on a, on va dire, le noyau dur des censeurs, ce sont les associations familiales, l'UNAF, les associations de jeunesse, donc les cœurs vaillants, les scouts de France, les Francs et Franches camarades, qui ont changé de nom maintenant, qui s'appellent les Francas.
Bon. Ils sont bien, ceux-là aussi.
Et, alors, eux, c'était les communistes, hein, pour les Francas.
Oui, mais ils sont...
Parce qu'il faut dire quand même qu'on est...
Main dans la main, était, hein, avec
les... Raoul Dubois, qui était leur pasteur.
Oui, Raoul Dubois.
On a fait.
J'en parle beaucoup, parce que c'est un inconnu, qui a été en fait le censeur le plus important de ce dernier demi-siècle, quoi. Et lui, il est resté 40 ans à la commission et il a été de tous les mauvais coups. C'est-à-dire que dans les années 50, il était homophobe.
C'est que les gens évoluent avec les goûts de leur public, peut-être.
Bah, c'est complètement fou. Du coup, en 61, il expliquait que si l'application de la loi était vraiment inflexible, il faudrait interdire la moitié des journaux hebdomadaires, sans parler des journaux quotidiens.
Oui, lui aurait aimé ça.
Oui, il aurait aimé ça.
Mais il y a une jouissance, parce qu'il y a quand même une jouissance à censurer. Pas une jouissance à être censuré, quoique, on ne sait jamais.
Ah ouais, non. Mais ça, c'est classique. Enfin, c'est en chacun de nous. Si un jour, on nous donne le pouvoir de pouvoir faire taire les gens qu'on n'aime pas, on en abuse immédiatement. Il faut savoir se contrôler et eux, se lâcher. En plus, leur procès-verbaux, ça, c'est un des intérêts de mon dictionnaire, c'est que je rends public quelque chose qui était tenu secret, c'est ce qui était dit dans ces réunions.
Mais alors, comment c'est fabuleux.
Alors
comment
que la loi prévoit que ça ne soit pas rendu public. Donc, ils étaient libres de dire ce qu'ils voulaient, n'importe quelle ânerie, c'était entre eux.
Comment ces choses-là ont-elles été dénichées? Où les avez-vous trouvées?
Alors, pour les plus anciens, j'ai dû aller dans les archives des ministères.
Ils ont conservé tous les comptes rendus, tous les procès-verbaux des réunions.
Oui.
C'est public
Non, oui, pour les plus anciens, c'est-à-dire années 50 et 60, j'y avais accès en rusant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au ministère de l'Intérieur ou de la Justice, parce que là, il y a 60 ans avant que ça soit rendu public, il faut aller Jeunesse et Sport, où là, il n'y a que 30 ans. Bon, vous trouvez ça aux archives de Fontainebleau, des gros cartons. Alors, j'ai tout photocopié. Moi, il faut que j'ai tout à la maison pour travailler, voilà. Autant le journal officiel que les procès-verbaux.
Dans
de la
le
commission.
Laboratoire.
J'ai tout à portée de main. Et puis, pour les plus, les autres périodes, il a fallu que je m'adresse à des anciens membres de la commission qui les avaient conservés. Qui
ont accepté de trahir, alors.
Oui, mais alors là, on a parlé de ceux qui formaient le noyau dur des censeurs. Mais il y a eu aussi des gens qui étaient censés contrebalancer les censeurs, notamment les représentants des éditeurs et les représentants des auteurs. Et puis, on va dire qu'il y avait un troisième collège à cette commission. Il y a toujours un troisième collège à cette commission. C'est les représentants des divers ministères qui, eux, sont plutôt neutres. Enfin, bon, ils votent ce qu'on leur dit de voter, quoi.
Oui, ils suivent là, le troupeau. Alors, moi, page 11, là, extraordinaire. Là, il y a un peu la description du fonctionnement et tout ce que doit être le fonctionnement de la commission. Seuls les volontaires procèdent à un examen approfondi. Donc, il faut être volontaire. Ce sont les rapporteurs. La tâche est ingrate et ne saurait procurer de joie intellectuelle à ceux qui l'accomplissent. Extraordinaire.
Ça, c'est le président de la commission qui déclarait ça.
Il s'agit seulement de se dévouer à l'intérêt général dans un esprit de totale abnégation, Jean-Pierre Brixton. Vous imaginez le monsieur qui fait des revues érotiques ou pornographiques dans un esprit de totale abnégation.
C'est mon cas.
Mais vous êtes pas membre de la commission. Prévenait le président Alfred Potier en 1972, donc c'est pas si vieux. Les publications sont envoyées par courrier à leur domicile. Vous allez avoir des boîtes aux lettres extraordinaires.
Alors, il y avait une anecdote très, très amusante dont je...
Imaginez le monsieur très digne dont la boîte aux lettres était rissée de trucs.
Il y en a un qui s'est plaint une fois en réunion en disant il faudrait utiliser des enveloppes plus solides
parce que ça se déchire. C'est pas souple discret.
Ça se déchire et donc le facteur voyait qu'il recevait des publications pornographiques.
Éventuellement, bon. Il y a un seul lecteur par livre ou par revue, donc on ne se les repasse pas, même s'il arrive en cas de difficulté que la publication soit soumise à d'autres. Aha. Et s'il y eut parfois des groupes de travail et des sous-commissions. Donc ça, ce serait éventuellement des avis comparés. Est-ce qu'il y a des débats dans cette commission quand même?
Non, c'est assez rare. Enfin, ça dépend des périodes. Mais c'est vrai que les publications ne sont lues que normalement par une seule personne, hein, parce qu'ils ont un exemplaire par le dépôt légal. Cet exemplaire est envoyé au rapporteur qui vient à la réunion faire son compte-rendu. Et ils sont une trentaine de membres hein, autour d'une grande table et la publication circule comme ça. Et donc, les gens n'ont pas le temps de lire le roman dont on leur dit qu'il est extrêmement pornographique.
Mais c'est ça, donc il y a un rapporteur bénévole qui souffre à lire, mettons, une publication pornographique. Et alors après, il fait passer et on feuillette rapidement et on opine ou non.
Voilà, et alors bon, évidemment, il n'avait pas le temps de se rendre compte du contenu des publications. Donc, si il représentait des associations de jeunesse, eh ben, ils votaient l'interdiction et puis ça se limitait. Alors, de temps en temps, il y a des débats, oui, mais c'est assez rare. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme débat important? Ah, le journal Détective, par exemple. Alors là, il y a eu un grand débat parce que ce journal de l'hebdomadaire de faits divers, l'éditeur de Détective faisait partie de la commission.
Ah oui, bah alors là...
Il s'est même défendu avant d'en faire partie, je crois. Hein.
Il y a eu deux interdictions dans Détective. Donc c'est un journal qui existait d'avant-guerre déjà, qui avait été créé par Gallimard, mais dans la version qu'on connaît, ça a été relancé dans les années après à la Libération par André Belair. Et dès le départ, dès que la commission, dès sa première réunion, la commission a demandé l'interdiction détective pour la place faite au crime. Et ils ne l'ont obtenue qu'au début des années 60, en 62. Mais ça a duré un mois et l'interdiction a été abrogée. Donc, détective a continué de reparaître. Et là, l'éditeur Bel Air de détective a fait partie de la commission et pendant des années a bénéficié du fait qu'il faisait partie de la commission. Mais c'était l'époque où il faisait des affiches qui étaient très racoleuses, qui choquaient
de
beaucoup.
De Di Marco.
Voilà. C'était même photographique dans les années 70.
Oui, Di Marco, c'était Radar qui l'illustrait.
Et en 77-78, là, c'était trop, il y avait trop de protestations, notamment de mouvements féministes. Bien qu'il fasse partie de la commission, on a dû réexaminer Détective et voter une interdiction.
Il avait pourtant...
Et aujourd'hui, c'est le nouveau Détective qui existe, car l'interdiction Détective n'a jamais été relevée. Mais lui a bénéficié d'une situation exceptionnelle, puisqu'il a pu se défendre, alors que, justement, habituellement, les éditeurs n'avaient pas leur mot à dire. Ça tombait comme un couperet de guillotine.
Alors, cette commission donc, soumet au ministre de l'Intérieur sa décision, et le ministre de l'Intérieur est libre ou non de l'appliquer.
Voilà.
Alors là, c'est extraordinaire parce que vous mettez que dans les années 50 et 60, à plus de 90%, les réquisitions de la commission de censure pour donc la loi de 49 sont suivies. Et aujourd'hui, c'est 10%.
Oui.
Et alors, vous donnez, alors c'est tout à fait passionnant, page 958, donc la fréquence des interdictions d'exposition de la loi de 49. Donc il y a la courbe en définitive des applications, puisqu'on fonctionne par réquisition-application. Et là, on est quand même sidéré de la logique, quelle est la logique des interdictions? Parce qu'on voit par exemple que le régime politique n'a pas à ce point changé sur le plan idéologique entre l'immédiate après-guerre et puis les années 70. Et là, on découvre par exemple qu'en 56, il y a une retombée, qu'en 66, il se passe quasiment rien. Ça remonte de façon vertigineuse en 73 à l'époque de Raymond Marcellin. Alors là, j'ai regardé, je vous donnais le nom du ministre de l'Intérieur qui est en charge au moment du comité. Et puis ça s'effondre deux ans plus tard, en 75. Donc là, on est quand même confronté à peut-être une commission qui, du point de vue idéologique et moral et du point de vue de son intervention, est un peu stable, puisque vous dites les gens sont là pendant des dizaines d'années. Donc je ne pense pas qu'ils changent d'avis. Donc, mais ce qui fait le tout, c'est la personnalité du ministre de l'Intérieur et par là même du président de la République. Alors selon les septennats, eh bien... On tape ou on tape pas.
Oui.
Selon les ministères de l'Intérieur, on tape.
Poniatowski, par exemple, a une période où il était pas du tout, il interdisait très peu de choses, et puis tout d'un coup, il s'est mis à interdire.
Enfin, voilà.
Ça a varié.
Donc là, il y a un caprice quand même.
C'est complètement arbitraire en plus. Il fait ce qu'il veut. Le Conseil d'État ne trouve jamais rien à redire quand des éditeurs sont allés devant le Conseil d'État. Il y avait toujours un caractère licencieux dans un roman policier, il y a toujours un crime. Enfin, ou alors, on fait des romans pour petits-enfants. Mais... Donc, il y avait quasiment toute l'attitude pour interdire ce qu'il voulait.
Voilà, Léo Ferré, bon général, une des multiples chansons censurées de Léo Ferré. Alors, on pourrait passer des heures et des heures à analyser tous les cas de figure, livre par livre, catégorie par catégorie, tous ces ouvrages censurés par la loi de 49, Bernard Joubert, mais je préfère qu'on concentrons-nous sur ceux à qui elle a été fatale. Est-ce qu'il y a eu parmi les écrivains, les dessinateurs, les photographes ou les éditeurs, des gens dont la censure a été tellement réitérée ou violente, parce qu'il y a différents degrés de censure, jusqu'à l'interdiction de mention même, est-ce qu'il y a eu des victimes quand même? On va dresser une sorte de monument aux morts.
C'est un peu difficile de vous répondre, parce que oui, il y a des auteurs, mais justement, vous ne les connaîtrez pas, quoi. Je peux vous parler de René Roch, qui, ce malheureux monsieur, s'auto-éditait dans les années 50-60. Il était soumis au dépôt préalable et il apportait ses livres lui-même et il suppliait qu'on le prévienne quand ses livres risquaient d'être interdits. Mais bon, René Roch est complètement inconnu. Alors, des interdictions vraiment fatales. Il y a eu Nicolas Ginca pour Les Pies Monstres, qui a été interdit en 64 chez René Julliard. C'était son premier roman et de toute évidence, ça a brisé sa carrière, son élan créatif, hein, même s'il a continué à écrire encore quelques livres après ça. Là où c'est le plus flagrant, ce sont quand même les journaux, c'est-à-dire quand un journal est interdit d'exposition, donc il s'arrête. Et un journal comme Est, que faisait Louis Dalmas au début des années 70, qui était une revue érotique intelligente, culturelle, avec aussi un esprit très libération sexuelle, qui n'était pas comme les revues commerciales. A été interdit pour des raisons politiques, parce qu'un jour, S avait envoyé aux candidats aux élections présidentielles un formulaire leur demandant ce qu'ils comptaient faire pour libéraliser les mœurs. De façon motu proprio, du jour au lendemain, S a été interdit. Et
ce qui est fou, c'est que S a demandé l'aide, le soutien de certaines de ses consoeurs, d'autres revues, et qui n'a reçu aucun soutien.
Oui. Et dans ces cas-là, on est un seul.
Actuel, Charlie Hebdo, etc., n'ont pas levé le petit doigt.
Ça me fait penser au journal L'Organe, auquel participait Jean-Pierre Bouxou aussi, qui a été interdit après deux numéros, qui était aussi une revue sur le sexe.
Mais Libération avait protesté contre l'interdiction de L'Organe, avait publié certains extraits du numéro 3 non paru. Mais alors que S a été complètement méprisé par la presse, qui était quand même, par rapport à un journal de cul, même Charlie Hebdo et même Actuel étaient des journaux bien pensants.
Oui. Mais ce qui aurait été L'Organe, si L'Organe avait continué, serait peut-être changer les mœurs françaises. Quoi. La censure a arrêté ce journal et voilà, il n'y a pas eu de suite, c'était fini. Si Harakiri, si Choron et Cavana n'avaient pas insisté pour que Harakiri survive, bon, il y aurait peut-être eu mai 68, mais peut-être au mois de juillet, au mois d'août.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore interdit, puisque on a pu suivre la courbe, il n'y a plus grand-chose,
il n'y a plus rien interdit. Il ne faut vraiment plus craindre, quand on fait un livre ou une revue, d'avoir des problèmes. Hein. Alors, ils sont toujours en activité, la commission continue de se réunir tous les trois mois ou deux,
elle voudrait même intervenir sur Internet maintenant.
Elle aimerait qu'on lui dénonce les publications sur Internet, ou n'usons pas de site.
Oui, hors du boulot.
Et elle se contente alors de convoquer des éditeurs pour la jeunesse. Alors elle s'en est pris à Johann Sfar récemment, à Riyad Satouf.
Oui, Klezmer.
Chez Gallimard.
Klezmer de Johann Sfar, manquait d'être condamné.
Poursuites judiciaires. Ouais. Mais bon, ils n'obtiennent rien. Puis ils sont vraiment considérés comme des guignols, même par les pouvoirs publics. Hein. Un membre de la commission m'avait dit ça. On nous prend pour des guignols, aujourd'hui.
Très bien. Eh bien, écoutez, c'est le centenaire de Guignol l'an prochain, donc on pourra en reparler. Donc, je recommande évidemment ce dictionnaire des livres et journaux interdits de Bernard Joubert aux éditions du Cercle de la Librairie, Grandeur et Décadence et Crépuscule aujourd'hui, donc, de la loi de 1949. À partir de la semaine prochaine, la Bibliothèque nationale nous ouvre son enfer, l'enfer de la bibliothèque. Vous avez participé à l'exposition, Bernard Joubert.
Oui, on m'y voit parler de censure et de pornographie.
Donc sur un c'est écran. À la salle, donc c'est sur le site de la BNF Tolbiac. On va voir un peu de quoi est constitué cet enfer montrable, exposition interdite aux moins de 16 ans. Je recevrai Eric Wagbeck pour en parler bientôt et je vous verrai. Il y a peut-être encore un enfer à l'enfer. Merci. Merci messieurs, merci Bernard Joubert, vous êtes le bienvenu à Mauvais Genre, et puis je recommande grandement ce dictionnaire des livres et journaux interdits édité par les éditions du Cercle de la Librairie. Toute l'équipe de Mauvais Genre, donc Brigitte Mazire, Vincent Levotte, Claire-Martin Dugard, Jean-Pierre Bouixou, Christophe Bire et François Geulier, vous remercie d'avoir suivi ce programme. On se retrouve samedi prochain avec Sébastien Guillot autour de sa collection Interstice chez Calman-Lévy. Vous écoutez France Culture.